nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Jean-Noël Robert de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres est un orientaliste spécialiste du Japon médiéval et des écoles bouddhiques et en particulier de celles qui se sont développées au Japon. Même si les samouraïs sont un peu éloignés de ses recherches habituelles, il a bien voulu accepter de nous en parler. Les samouraïs, figure guerrière fondamentale de la culture japonaise, mythe et réalité. Jean-Noël Robert, bonjour.
Eh bien, bonjour madame.
Jean-Noël Robert, le samouraï, c'est une grande figure symbolique du Japon pour nous occidentaux. Alors, que représente un samouraï pour les Japonais? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça veut dire, vous qui maniez le japonais avec une très belle aisance?
Oui, ce sont des questions fondamentales. À vrai dire, j'ai une certaine opinion là-dessus qui devrait être mieux fondée puisque j'ai l'honneur d'avoir reçu un sabre pour mon entrée à l'académie qui n'est pas un sabre de samouraï à proprement parler puisque le sabre de samouraï est beaucoup plus long. C'est un sabre d'une taille plus modeste, un wakizashi, qui est un sabre de cabinet, un sabre d'intérieur, un sabre de lettré aussi, n'est-ce pas? Ce sont les sabres qu'avaient les lettrés. Je pense qu'il est beaucoup plus adapté à ma condition que celui d'un sabre de brodeur presque. Mais il faudrait dire que représente, enfin, il faudrait dire, si je puis me permettre, il faudrait se demander qu'a représenté le samouraï dans les différentes époques du Japon, voilà. N'est-ce pas? Parce que c'est une image qui a beaucoup évolué. Vous savez, on a l'impression, et on pourra peut-être revenir sur les causes de cela, qui nous ramène directement un peu à ce 150e anniversaire des relations entre l'Occident et le Japon. L'image du samouraï a été considérée à l'époque moderne. Vous savez, si vous le permettez, je me rappelle une petite anecdote qui m'avait beaucoup frappé. C'était en 1974, je crois, lorsque André Malraux est venu au Japon. J'étais à l'époque pensionnaire de la maison franco-japonaise et André Malraux nous avait fait l'honneur de venir faire un petit discours, simplement pour les pensionnaires. Donc nous étions moins d'une dizaine, n'est-ce pas? Il y avait 4 ou 5 pensionnaires. Le directeur de la maison franco-japonaise de l'époque était mon maître Bernard Franck. Et 2 ou 3 autres personnes, nous étions vraiment une petite dizaine. Et André Malraux nous a fait un discours impromptu qui était tout à fait magnifique comme à son ordinaire. D'ailleurs, c'est un discours qui est conservé dans le bulletin de la maison franco-japonaise. Et il nous a parlé des grands idéaux nationaux. Et il nous a dit, en Angleterre, je ne peux pas l'imiter, il était inimitable, mais il est toujours à l'emporte-pièce, il dit, en Angleterre, le gentleman, en Espagne, le caballero, et au Japon, le samouraï. Alors, nous avons reçu ce discours avec révérence, mais je me disais en même temps, est-ce que c'est bien cela? Et il est vrai que d'une certaine façon, si l'on parle de ces images nationales reconstituées, on peut dire que les Japonais se sont retrouvés dans l'image du samouraï. Mais quand se sont-ils retrouvés dans le samouraï, justement, quand il n'y avait plus de samouraï? Comme nous en avions parlé à propos des études bouddhiques, le Japon a subi une véritable crise d'identité, de remise en question à l'époque de Meiji, enfin dans les années qui précèdent et suivent Meiji, et en plus après la guerre aussi. Et vous savez, c'était une époque où l'on bradait toutes les valeurs traditionnelles, mais il y avait une valeur qui semblait passer en Occident, c'était celle justement des guerriers japonais, des pratiques guerrières.
Des arts martiaux.
Les arts martiaux arrivaient encore difficilement, mais par exemple, il suffit de voir la vogue du sabre, n'est-ce pas? Déjà les missionnaires portugais et espagnols au Japon, au XVIe, XVIIe siècle, faisait commerce presque, pourrait-on dire, des katanas, n'est-ce pas, des sabres japonais. Le mot était pratiquement passé en portugais. On exportait les sabres japonais qui étaient de très bonne facture. Alors là, il y a des gens qui pourraient vous expliquer ça beaucoup mieux que moi, mais l'acier japonais était, enfin, le minerai dont on faisait l'acier était naturellement pur au Japon. C'est-à-dire que il n'y avait pas toutes les scories dont on devait débarrasser le fer en Occident pour faire un métal d'une pureté quasi parfaite. Donc il y avait une sorte de donnée qui était tout à fait par hasard au Japon qui a fait que l'acier japonais, le métal dans lequel était fait le sabre, était d'une qualité absolument exceptionnelle. Donc on avait repéré ça depuis quasiment la fin du XVIe siècle, n'est-ce pas? Et donc il y avait un prestige de l'arme japonaise. Et ce prestige s'est renouvelé à la fin du XIXe siècle. Les Japonais ont vu là une sorte de créneau identitaire, si vous voulez, qui leur a permis de reconstituer une image qui existait, bien sûr, qui a une vieille tradition, mais qui n'avait pas ce caractère omniprésent qu'il a acquis.
On retrouve partout figure du samouraï.
Alors c'est très amusant parce que, disons, si le samouraï, alors on reviendra peut-être sur le sens après, mais disons au sens de guerrier, n'est-ce pas ? On peut imaginons, enfin, posons que le samouraï et le bushi, c'est la même chose, ce qui est à peu près vrai, n'est-ce pas ? Donc le samouraï est une appellation plus populaire, en quelque sorte, plus japonaise, du guerrier, du bushi. Le bushi étant un mot sino-japonais qui est plus savant, un peu. C'est la différence entre harakiri et seppuku, si vous voulez. Eh bien, évidemment, les bushi, les guerriers, sont la grande figure de ce qui est l'un des deux grands romans japonais traditionnels. Il y a le Genji Monogatari, dont nous avons beaucoup parlé, et dont j'aurai encore l'honneur de parler au mois de novembre, d'un côté, qui est le roman le plus profondément japonais, je pense, et qui a aussi débordé vers l'étranger. Mais il y a un autre grand roman, largement postérieur au Genji, d'au moins deux siècles, disons qu'il s'est constitué de façon assez anarchique au cours du XIIIe siècle, parce qu'autant le Genji Monogatari est l'œuvre d'un auteur, n'est-ce pas ? Bon, je passe sur les polémiques, moi je considère que c'est vraiment l'œuvre d'un auteur, de Murasaki Shikibu. Et autant l'autre est une œuvre multiforme, une sorte d'Iliade et d'Odyssée qui s'est constituée beaucoup plus rapidement. Il s'agit donc du Heike Monogatari, qu'on a parfois traduit par la geste des Heike ou le dit des Heike, n'est-ce pas ? René Siffert en a fait une traduction sous le titre de dit des Heike. Et évidemment, c'est l'histoire de la guerre, vraiment c'est la guerre entre les deux grandes familles, les deux grands clans japonais qui se disputaient le pouvoir à la fin de l'époque de Heian, et début de Kamakura, donc les Heike, donc, c'est-à-dire le clan des Taira d'un côté, et le clan des Minamoto, des Genji de l'autre.
D'ailleurs, on est à quel siècle ?
Alors, c'est la fin du XIIe siècle, et il s'est constitué au long du XIIIe siècle. C'est extrêmement compliqué, mais l'élaboration du Heike est passionnante. Et c'est un livre qui était un peu comme les Trois Mousquetaires, c'était le roman obligé, on disait que le Genji Monogatari, le roman du Genji, c'était pour les filles, les dames, et le Heike Monogatari, c'était pour les hommes, les garçons, les messieurs. Puisque c'était une histoire de brodeurs et de perdants aussi, puisque c'est l'histoire de la destruction d'un clan en réalité. Et dans ce Heike Monogatari, qui est un peu la Bible du bushi, du guerrier, eh bien on s'aperçoit que l'image du guerrier n'est pas du tout univoque. Ils sont parfois décrits comme de parfaits soudards, et c'est dit, n'est-ce pas ? C'est-à-dire il y a une réflexion, sinon une réflexion, du moins la cour de réflexion sur le statut du guerrier de l'époque, puisque c'est entièrement différent. Nous quittons l'époque de Heian, qui est l'époque de la cour, l'époque du roman de Genji, qui est une époque extrêmement raffinée, précieuse, où il n'y a pas de description d'un combat dans le Genji.
Pas de violence.
Les violences sont sentimentales et amoureuses, mais certainement pas de, c'est même pas si on parle de sabre même dans le Genji, n'est-ce pas? Donc c'était ce grand roman profondément japonais qu'est le Genji, tourne autour des nobles de la cour, qui vont être d'un certain côté les prototypes des seigneurs féodaux d'après, mais ce sont en quelque sorte de nobles fonctionnaires en même temps, ce sont ils ont une charge, et le guerrier n'existe pas. Il y a le lettré. Le lettré et la femme lettrée, puisque très souvent ce sont des échanges de poèmes écrits par des hommes et des femmes, donc on est dans un monde extrêmement raffiné, d'où toute violence est bannie. Et puis, deux siècles plus tard, on tombe, si je puis dire, dans l'univers du Heike Monogatari, où on a le reflet de cette dichotomie, parfois les bushi. Ben, on a bien besoin d'eux parce qu'on est dans un temps de guerre, de clans féodaux, justement, au moment où le système impérial s'écroule, et ils deviennent des protagonistes que l'on va décrire le plus souvent comme de violents brodeurs, et puis parfois on leur donne aussi, bien sûr, des sentiments humains, mais en général, le côté raffiné, le côté méditatif du samouraï que nous avons parfois en Europe,
n'existait pas.
Oui, voilà, il n'est pas vraiment mis en relief. Ce qui est très drôle, c'est, pour revenir sur ce mot de samouraï et de bushi, à l'époque d'Edo, on reprend les vieilles classifications confucianistes chinoises et on divise la société en quatre classes, ce qu'on appelle Shino-Ko-Sho. C'est un terme qui existe déjà en Chine et c'est ça qui est amusant. Shi, dans la classification chinoise, Shi, c'est le même mot qu'on a dans Bushi, c'est le lettré en Chine, n'est-ce pas ? Le lettré. No, c'est l'agriculteur, le paysan, le fermier, si je puis dire. Ko, c'est l'artisan. Et la quatrième, n'est-ce pas ? C'est par degré, bien sûr, la quatrième classe la plus basse, ce sont les commerçants. Donc c'est une classification qui est parfaitement valable pour la Chine. Et ce qui est très amusant, c'est qu'en Chine, Xi veut dire vraiment le lettré. C'est celui qui maîtrise les classiques, qui connaît la littérature, qui est capable de faire un poème et qui, surtout, a accédé aux examens impériaux qui en font des fonctionnaires, des énarques du régime. C'est un système qui a été, le système de ces lettrés à examen, en quelque sorte, a été tenté au Japon à l'époque de Heian, donc à cette époque du Genji Monogatari Mais il est vite tombé en désuétude parce que les liens féodaux sont devenus plus puissants que les liens littéraires. Or, ce mot « shi », qui veut dire donc le lettré en chinois, est devenu en japonais l'une des lectures possibles de « samurai ». C'est-à-dire que « shi » est devenu le guerrier. C'est-à-dire que celui qui maniait le pinceau devient le manieur de sabre. Et là, il y a une espèce de transfert de valeur à travers le même mot, ce qui est très symptomatique de ce qu'ont fait toujours les Japonais. Extérieurement, c'est comme la Chine, alors que intérieurement, c'est tout à fait différent.
C'est autre chose.
Voilà. Et c'est vrai, le samouraï est devenu une entité chinoise. Il y avait vraiment un certain mépris du métier des armes en Chine, qui a toujours existé, qui existe encore à présent.
C'est enfin, le côté un peu pirate de l'histoire du Japon.
Les pirates japonais, c'était limité vraiment dans les fiefs du sud et des Ryukyu.
Disons que c'était
pas des corsaires de la cour impériale. Ce n'est pas ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'est fait à partir de l'époque de Kamakura, où les shoguns, n'est-ce pas, les généraux ont pris le pouvoir, et donc un général aime les guerriers et les soldats. C'est très intéressant ce transfert de sens, et en même temps il est amusant aussi de voir que les Japonais n'ont pas complètement perdu l'idée que le shi, même s'il était bushi, était non seulement un guerrier mais un lettré, parce qu'on a des histoires assez amusantes, par exemple une histoire qui remonte au 15e siècle je crois, c'est l'histoire d'un noble qui doit se débarrasser de l'un de ses rivaux, et il l'attire sous le prétexte de prendre le thé avec lui, n'est-ce pas, il l'attire dans un petit pavillon. Et sur un signe convenu à l'avance, puisque en prenant le thé, on doit se débarrasser de son, enfin, le mettre à côté, mais c'est, donc sur un signe convenu à l'avance, les gens qui étaient aux aguets devaient se précipiter et le trucider au moment où il buvait son thé. Et puis, dans ce pavillon, il y avait sur le mur un rouleau tendu où il y avait un poème chinois. Et le futur assassiné entre et s'assied et voit le poème chinois, il commence à le commenter et à dire les vers qui suivent. Et celui qui devait le tuer lui dit, ah, mais, vous connaissez la poésie chinoise, moi qui vous prenais pour un bretteur. Et l'autre dit, vous savez, on peut être, pour être samouraï, je n'en suis pas moins lettré. Si bien que le chef du complot fait un signe en disant à ses hommes que ce n'était pas la peine de faire ce qu'ils avaient à faire. Et il lui dit, après, alors là c'est très japonais, il dit, vous savez, en réalité, je vous avais fait venir pour vous tuer, mais en voyant votre érudition, je me suis dit que ça serait une grande perte. Et l'autre sort de sous son manteau un long poignard, une longue dague, en disant « Mais vous savez, je ne me serais pas laissé faire ». On voit cette espèce d'état d'équilibre. Et il est vrai que la culture était quand même quelque chose qui était considéré chez les samouraïs, mais à partir de quand? C'est ça le problème. Et comme cela arrive souvent, je pense que l'image du samouraï que nous avons, comme beaucoup de choses de la civilisation japonaise qui sont passées non seulement en Occident, mais chez les Japonais eux-mêmes, les Japonais ont une vision de leur civilisation ancienne qui est celle d'Edo, en réalité, de la civilisation d'Edo.
Entre
2600 à 1868, si vous voulez. Voilà, largement ça. Et même de la fin d'Edo. Et c'est justement à l'époque d'Edo que s'est refaite toute cette tradition du sabre, de l'armure, du samouraï.
Avec un code, un esprit samouraï, avec un des code valeurs qu'auparavant on ne voyait pas dans les grands livres que vous nous avez évoqués, c'est ça?
Voilà, d'une certaine façon, oui. Et d'ailleurs, c'est très amusant que vous disiez cela, parce que ce qu'on appelle le grand code du samouraï, la Bible du samouraï, en japonais, c'est le hagakure, n'est-ce pas? Hagakure, qui veut dire les notes à l'ombre du feuillage.
Oula,
c'est traduit en français, je crois, par... Donc on dit c'est l'esprit samouraï. Il a été rédigé dans sa forme actuelle au tout début du XVIIIe siècle. C'était la grande période de paix du Japon. C'était les clans féodaux qui étaient, c'est un peu comme Louis XIV et les féodaux, n'est-ce pas, le shogun avait mis au point un système qui permettait d'aplatir, d'écraser tous les clans féodaux qui étaient devenus de simples
vassaux
de représentation, n'est-ce pas? Ils vivaient, ils exploitaient leur domaine et ils étaient assujettis à une espèce de contrainte de visite à la cour d'Edo qui leur faisait dépenser un argent fou qui leur permettait de penser à autre chose qu'à se battre entre eux. Donc c'est au moment où on n'utilise plus vraiment les sabres, on n'utilise plus les armures et on n'a plus besoin de samouraï que se développent les sabres, les armures et l'esprit samouraï, le code de samouraï justement. Ce hagakure dont nous parlions, l'ombre du feuillage, n'est-ce pas, commence par des choses tout à fait extraordinaires sur le bushi. Là. Alors on appelle le bushi, donc la voix du samouraï, la voix du guerrier, le bushido, n'est-ce pas, c'est ce qui est... Et c'est amusant, ça rappelle un peu Montaigne, puisque ça commence par les mots. Le bushido, c'est mourir, n'est-ce pas? Philosopher, c'est apprendre à mourir, là c'est la même chose. Donc on développe ça comme une mystique de la mort. qui n'avait que très peu de prétextes à se réaliser à cette époque. Alors je sais bien que René Cifer, citant un autre auteur qu'il ne nomme pas, et dont je n'ai pas retrouvé la trace, disait que la paix d'Edo était la paix qui règne dans les casernes. C'est vrai que c'était un régime d'un certain côté très autoritaire, mais il y avait quand même une certaine liberté d'expression et s'est trouvé dans le foisonnement d'idées intellectuelles de l'époque. Mais c'est vraiment le moment où l'on voit s'élaborer une image idéale du samouraï qui renverse celle, alors, qui n'existait pas, je pense pouvoir le dire, à l'époque de Heian, qui a commencé à être présenté de façon ambiguë à l'époque de Kamakura, qui évidemment s'est développé au XVIe siècle à cause des grands troubles intérieurs où grands héros culturels japonais, c'était des généraux, des guerriers comme Oda Nobunaga, n'est-ce pas, Toyotomi Hideyoshi, Takeda Shingen, qui étaient tous des guerriers, il n'y a pas de doute. Oda Nobunaga n'avait aucune culture. Mais après, on voit Hideyoshi qui est beaucoup plus cultivé, en plus qui est très attentif à cultiver ses enfants. Et donc, c'est une idée qui a été refaite à l'époque d'Edo, et c'est celle-ci qui est passée en Occident, parce que c'est l'image qui a tout de suite accroché le mieux avec les Européens, n'est-ce pas, c'est cette idée du guerrier que l'on a comparé au chevalier médiéval, que l'on a comparé à, par exemple, Oda Nobunaga ou Hideyoshi, selon les cas, ils sont comparés à Napoléon, etc. Et puis pour les Japonais, il fallait bien voir que l'Occident, c'était une idéologie, une religion, mais c'était aussi une armée, une puissance militaire. Il fallait bien mettre quelque chose à l'encontre de cela. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est de voir que à cette époque aussi, les Japonais reconstituent une hiérarchie nobiliaire calquée sur le mode occidental. Et on redonne aux anciens clans japonais, on leur redonne une hiérarchie avec des barons, des comtes, des marquis des comtes, etc. Et évidemment, là, devenir descendant de samouraï, c'est ainsi qu'on appelle à tous ceux qui sont dans les clans, ça devient une véritable carte d'identité.
Marquons une courte pause, si vous le voulez bien, Jean-Noël Robert, et reprenons dans quelques instants la suite de notre discussion à propos des samouraïs. Nous retrouvons Jean-Noël Robert, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur le beau sujet des samouraïs. Je rappelle que Jean-Noël Robert est un grand spécialiste du bouddhisme et du Japon. Quelles sont les valeurs, justement, on prête aux samouraïs, enfin à ces nouveaux samouraïs, si j'ose dire?
Bien justement, ce sont des valeurs
dont on a hérité aujourd'hui.
Des valeurs très pratiques. Avant tout, c'est la fidélité au Seigneur. Donc lorsqu'on dit mourir, le bushido, la voie du guerrier, c'est la mort. C'est mourir, pas n'importe comment, c'est mourir pour son seigneur, n'est-ce pas? Alors évidemment, ça a été, comprenez bien l'emploi que l'on peut faire d'une telle conception dans un contexte impérialiste, d'ouverture vers l'étranger à un moment. Et puis après, malheureusement, je caricature à peine parce que ça a été fait, et non seulement ça a été fait, mais ça a été même repris en Occident. C'est en quelque sorte mourir pour son entreprise. Et on voit des textes comme le Hagakure, par exemple, donc à l'ombre des feuillages, ou même un autre texte qui est très connu, qui s'appelle le livre des cinq cercles ou des cinq roues, le Gonin no Sho en japonais, qui est attribué, probablement à juste raison, mais cela je ne peux pas trop me prononcer là-dessus, qui est attribué à un grand sabreur japonais du XVIe, XVIIe siècle, qui s'appelle Miyamoto Musashi, n'est-ce pas? Et c'est un livre très cryptique qui est censé transmettre l'art du combat, et en particulier du combat à deux sabres. Et ce sont des recettes, des trucs de combat, c'est pas la botte de Nevers, mais presque, assorties de digressions bouddhistes et philosophiques qui sont un peu difficiles à comprendre, si bien qu'on a essayé d'adapter ces textes au businessman moderne, n'est-ce pas? Comment utiliser le livre des cinq cercles pour faire avancer son entreprise? Alors c'est essentiellement la fidélité jusqu'à la mort qui est le moteur de cela. Et alors c'est très amusant de voir, vous savez, on parle souvent des mangas, et c'est vrai que bon maintenant c'est très à la mode, enfin peut-être un peu moins en Occident, c'est peut-être moins à la mode au Japon, mais lorsque j'étais au Japon dans les années 70, c'était vraiment la grande lecture des jeunes japonais. Et alors là, vous aviez des aventures les plus invraisemblables sur les samouraïs, mais qui revenaient très souvent à cette idée. Je me souviens de manga que j'avais lu qui était particulièrement horrible, n'est-ce pas? Mais c'était donc un samouraï qui avait été suspendu sur la tête coupée de son seigneur, et puis il était suspendu, attaché, mais pas les jambes. Et on disait, on va te laisser là toute la nuit, et tu vas finir par, tu ne pourras plus garder les jambes pliées, donc tu vas finir par les déplier, et tu mettras les pieds sur la tête de ton seigneur. Ce qui aurait été une horrible insulte. Et alors, le malheureux se ronge les jambes, n'est-ce pas, pour ne pas avoir, alors vous voyez. Et À l'époque, ça n'avait aucun intérêt immédiat, mais c'était des choses qui enchantaient les jeunes japonais de l'époque. Je dois dire que maintenant, il y a beaucoup moins de ce genre de texte. Il y a même un certain recul, une certaine distanciation par rapport à l'égard des samouraïs, n'est-ce pas? On se moque d'eux. Il y a eu un film, il y a quelques années, qui était drôle, parce qu'il j'ai oublié le titre, malheureusement, mais qui reprenait le thème du samouraï errant, n'est-ce pas? Qui, en réalité, s'en moquait de façon tout à fait drôle, une sorte de Monty Python de japonais. Et ça montrait un changement d'attitude. Mais un changement d'attitude qui reste quand même, pour les japonais, si vous voulez, on aura beaucoup de mal maintenant à refaire naître l'image du lettré japonais de l'époque de Heian. Alors que le samouraï, comme je vous le dis, c'est ce qu'on a de plus immédiat dans la continuité de l'époque d'Edo. L'une des grandes figures romantiques aussi des japonais modernes à l'égard du samouraï, c'est ce qu'on appelle le ronin. Le ronin, c'est un mot qui est relativement connu en Occident, c'est le samouraï errant. Le samouraï dont le maître, qui a été soit chassé par son seigneur, soit qui n'a plus de seigneur parce que le clan du seigneur a été détruit par un adversaire, et il se retrouve donc sans maître et il loue son sabre. Ou alors souvent dans la littérature japonaise moderne et dans les films, c'est le redresseur de tort. Vous avez un peu la figure des sept samouraïs, par exemple, vous n'avez que des ronin. Alors évidemment, quand a-t-on des ronin, des samouraïs errants? Vous en aviez, bien sûr, au Moyen-Âge, vous en aviez au tout début de l'époque d'Edo, à la fin de l'époque donc qui précède immédiatement Edo, donc avant le XVIIe siècle, et puis après, pendant deux siècles et demi, vous n'en avez pratiquement plus, puisque tout est stabilisé, n'est-ce pas? Et puis, le ronin revient réellement dans la société japonaise à l'époque de Meiji, puisque les clans sont défaits. Vous avez une espèce de plan social, n'est-ce pas, qui fait que les clans qui vont se restructurer d'une certaine façon dans les commerces, les affaires et tout cela, mais vont se débarrasser de gens qui sont en quelque sorte des poids sociaux, puisque le samouraï était nourri par son seigneur, n'est-ce pas, qui donnait un salaire en riz. Et donc c'était un salaire consommable, hein, n'est-ce pas? Et là, vous allez avoir des ronin, des samouraïs errants, mais ils ne vont pas, bien sûr, parcourir le Japon avec leurs sabres pour se battre, encore qu'à un moment, enfin bon, il y a eu une situation intérieure assez compliquée juste avant le début de la période d'Edo, bien sûr, avec le passage du régime du shogun au régime impérial. Mais disons que la grande époque où le ronin va redevenir une image au Japon, c'est l'époque où ces samouraïs au chômage vont entrer soit dans les affaires à leur tour, monter leur petite entreprise, monter des écoles, faire des écoles où les ronin vont devenir souvent maîtres d'école, employés de bureau, fonctionnaires gouvernementaux. Donc plus leur reconversion va être en quelque sorte terre à terre, plus on va idéaliser le mythe du samouraï errant. Et ce qui est très amusant aussi, c'est de voir maintenant, ça devient le grand changement démographique qui s'est opéré au Japon. On n'a plus tellement cette image, mais il y a encore une trentaine d'années, ronin avait en argot étudiant un terme tout à fait précis et qui était aussi une réalité sociale. C'était l'étudiant, le bachelier, si vous voulez, qui avait échoué aux examens d'entrée à l'université. Il y avait des examens très sévères lorsque vous aviez beaucoup d'universités au Japon, mais il y avait encore plus de jeunes gens qui voulaient y entrer. Et chaque université avait des examens par ordre décroissant de difficulté. Vous aviez les grandes universités nationales, vous aviez les grandes universités privées, après vous aviez de petites universités. Mais les gens qui étaient sous ceux de leur carrière visaient, vous pouviez vous présenter à plusieurs universités. En général, on s'en présentait à trois, et puis après on savait bien que c'était un parcours d'échec. Donc, lorsque vous n'aviez pas réussi l'examen, il fallait attendre l'année suivante.
Donc il y avait une année.
Voilà, alors vous aviez une année, ou parfois deux, où vous étiez vraiment un ronin, donc en argot d'étudiant. C'était celui qui était bachelier, enfin je dis bachelier par simplification, c'est celui qui avait achevé le premier cycle, oui, et qui n'avait pas d'université d'appartenance. Et alors, en général, c'était une époque. Beaucoup d'écrivains sont nés grâce à cela, puisque pendant cette année ou ces deux ans, ils commençaient à écrire, après à rédiger un roman qui finissait par être pris par un éditeur, et des écrivains célèbres sont passés de l'état de ronin à...
À qui pensez-vous, par exemple?
Là, pour l'instant, je pense que Murakami Haruki, il me semble qu'il... Mais je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie ça. Il y en a eu pas mal d'autres, des écrivains moins connus au Japon, à l'Occident. Et donc, c'est la dernière avatar du samouraï, en quelque sorte.
Alors, le samouraï ne fait plus rêver aujourd'hui au Japon?
Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Il y a vraiment, comme je vous l'ai dit, ce film auquel je fais allusion est le premier d'une série. Il y a vraiment une dévaluation, me semble-t-il, de l'image du samouraï. Je ne sais pas si c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire, on en a fait une sorte de chevalier. Et là, très souvent, vous savez, par exemple, ce mythe du samouraï errant défendant la veuve et l'orphelin, qui a eu un essor dans les feuilletons télévisés extraordinaires, c'était quand même largement influencé aussi par la littérature occidentale. On a croisé un peu le samouraï et le chevalier. Je ne sais pas si ça intervenait tout à fait dans le même sens, si c'était tout à fait la même chose à l'époque ancienne. On en a un peu d'idée. La grande image du samouraï, c'est par exemple des gens comme Benkei. C'est donc lors de la fin de l'époque de Heian, lorsqu'un des clans est vaincu, il y a le dernier représentant de ce clan qui s'enfuit vers le nord et qui est conduit par un grand guerrier célèbre, alors qui va s'humilier même des pires façons pour défendre son seigneur.
Mourir pour son seigneur,
voilà,
jusqu'au bout.
Mourir et même s'avilir même. C'est pas seulement mourir, et c'est ça qui est, par exemple, dans l'histoire de Benkei, c'est qu'il est prêt à se ridiculiser, s'humilier, ce qui est presque pire que la mort pour un samouraï. Donc c'est...
Et aujourd'hui, on est loin de ça.
Je crois vraiment,
qui ne font plus recette.
D'un certain côté, si encore. Mais l'époque d'Edo, le Japon ancien fait encore recette, pour reprendre l'expression. Mais c'est une vue beaucoup plus distanciée, qui peut être satirique, qui peut être problématique, et qui est aussi peut-être plus humaine. Parce que je vous avoue que lorsqu'on lisait ces romans historiques des années 60-70, qu'on lisait ces mangas, c'était parfois un peu dur, n'est-ce pas? Maintenant, c'est pour ça que je pense que vraiment le Japon a changé dans les années 80-90. Il y a vraiment eu un changement
peut-être
d'image.
Peut-être qu'il n'était lu aussi que par des garçons, ces mangas-là.
Oui, vous avez tout à fait raison. Vous aviez les mangas pour les filles, les mangas pour les garçons. C'était les histoires de samouraï qui se rognaient les jambes. C'était vraiment pour les garçons. Les filles, pas du tout. Encore qu'il y avait des mangas de femmes samouraï qui maintenant font davantage recette d'ailleurs. Et parce que vous avez aussi le mythe du ninja. Souvent, c'est assimilé au samouraï, mais le ninja, c'était un homme de l'ombre, en quelque sorte, comme le dit son nom même, puisque c'est celui qui est caché, en quelque sorte, qui opère dans la clandestinité. Et là, souvent, mais déjà à date ancienne, vous avez des femmes ou des filles, des jeunes filles, des personnages de ninja, des romans et des mangas. Alors ça, c'est vrai qu'une femme samouraï, c'était en quelque sorte une contradiction dans les termes, mais...
Il n'y en a jamais eu ? Il y en a eu ? Écoute, je ne sais pas.
Une femme guerrière, je ne pense pas en tant que telle. Qu'est-elle en cas de... Parce que c'est dans la défaite qu'on voit le samouraï, en quelque sorte. Comment réagit-on en cas de défaite ? Soit on se laisse...
Alors on rentre dans le code, là.
Oui, on meurt au combat. Si on a la possibilité de partir, alors on continue à combattre, on essaye de venger son seigneur. Si on n'a pas de possibilité, on se suicide. La femme, si elle tombe aux mains de l'ennemi, il n'y a pas 36 solutions, il faut se suicider tout de suite. Et ce n'est pas seulement japonais, il y a une histoire, vous savez, en Corée, encore, alors je ne sais pas si ça se fait en Corée, mais en Corée, parmi le trousseau que l'on donne à la mariée, il y a un petit poignard. Et ce petit poignard, c'est pour se suicider si on est menacé d'être prisonnière, donc ce qui expose au pire destin pour une femme. Alors ça, c'est très confucianiste. Mais, et vous avez d'ailleurs un très bel échange dont on a gardé trace entre deux lettrés, un japonais et un coréen de la fin du XVIIe siècle, n'est-ce pas, lors de l'expédition de Hideyoshi en Corée. Ils ramènent des prisonniers et on a quelques femmes en effet, lettrés coréens qui va faire passer au Japon le néo-confucianisme chinois. Et on a le dialogue en chinois classique entre le lettré japonais qui l'a hébergé quelque temps, on pourrait presque dire son officier de débriefing, et le coréen qui répond aussi en chinois classique, puisque c'est leur langue commune. C'est un document tout à fait intéressant, et le lettré coréen parle de lui, et il dit « Voilà, ma femme s'est jetée à l'eau plutôt que d'être prise par les Japonais. » Et puis il dit « Malheureusement, ma fille est maintenant dans le harem de le gynécée de Hideyoshi. » Alors l'autre dit « C'est bien triste, n'est-ce pas ?» Donc la jeune fille n'a pas pu, n'a pas voulu. Ou...
Voilà, elle n'a pas compris
le geste. Bon, je ne pense pas qu'elle ait eu une vie très très malheureuse, mais enfin, il y aurait eu pire à l'époque, mais c'est intéressant de voir que la femme, donc adulte, elle s'est suicidée.
Elle a accompli jusqu'au bout.
Oui, alors c'est vraiment le devoir confucianisme, parce qu'il y a beaucoup de confucianisme aussi dans l'esprit samouraï. Cette fidélité est l'une des grandes vertus cardinales confucianistes aussi. Simplement, elle s'est développée autour d'un individu, alors que en Chine, c'était autour de, plutôt qu'un individu, enfin évidemment c'était l'empereur, mais c'était l'État en même temps. Alors que cette fidélité du samouraï ne va pas à l'empereur, puisque l'empereur, pendant toute cette période où l'image du samouraï s'est élaborée, l'empereur était une entité quasiment inexistante, n'est-ce pas? C'était le général. Donc c'était vraiment une fidélité presque de soldat.
Des seigneurs de guerre.
Oui, en quelque sorte.
Alors, écoutez, après avoir fait un tour en compagnie des samouraïs dans l'histoire du Japon, et puis dans ce que représentent aujourd'hui les samouraïs pour les Japonais, est-ce qu'il y a une chanson, petite chanson ou un petit poème qui parle de samouraïs? Il y a des anecdotes aujourd'hui?
Ne me demandez pas de la chanter, mais il y a par exemple encore une chanson à boire. Au moins, c'est
donc,
ce côté.
Donc on est vraiment dans l'univers des soldats.
C'est ce côté, oui, c'est une...
Et pas le côté samouraï. L'image qu'on s'en est fait dans le cinéma occidental.
C'était plutôt le côté détendu du samouraï. C'est une chanson qu'on appelle Kuroda Bushin, les guerriers de Kuroda, justement, et qui est une chanson à boire qui dit tout bêtement, c'est presque buvons le saké. Mais c'est très très bien. Et puis alors vous avez une chanson qui est très intéressante parce que c'est une chanson non pas de samouraï, mais qui reprend entièrement des images de la poésie traditionnelle japonaise qui était cultivée quand même par les samouraïs de l'époque d'Edo, enfin lorsque les samouraïs faisaient des poèmes, et qui s'appelle Doki no Sakura, n'est-ce pas? Les cerisiers qui s'épanouissent ensemble et qui était la chanson de ce qu'on appelle les kamikazes, voilà, les pilotes suicides. C'est une chanson très intéressante qu'on chante encore parfois à la fin de beuveries au Japon, parce que c'est une chanson très populaire, qui est assez belle, dont les paroles même seraient assez belles s'il n'était pas défiguré par quelques modernistes absolument incroyables. Se dit à peu près, nous sommes toi et moi, nous sommes des cerisiers qui s'épanouissent en même temps, qui s'épanouissent dans la cour de l'école de guerre. Ça reprend des termes, en général, ça aurait été une autre cour, n'est-ce pas, une cour d'un palais, d'un temple, etc. Mais là, c'est la cour de l'école de guerre, et en plus, c'est avec le nom administratif, alors ça fait un peu décalé toute l'image de cette chanson qui évoque les fleurs comme des taches de sang, en quelque sorte, qui s'envolent dans le vent, est très très belle, mais c'est une chanson entièrement dans l'esprit samouraï, mais qui est dirigée sur les kamikazes, qui est une chanson qui est encore assez très très connue même au Japon actuellement.
Jean-Noël Robert, merci beaucoup de toutes ces précisions, ces petites découvertes pour nous auditeurs de l'univers des samouraïs. Je vous ai beaucoup éloigné des textes sur lesquels habituellement vous travaillez. Merci beaucoup Jean-Noël Robert.